Bonjour. Ça va bien?
Oui.
Excellent. Je voulais vous dire, comme je vous avais parlé, il m'en reste deux. Ce livre-là, je n'avais commandé sept. C'est le livre sur lequel c'est le livre qu'on suit pour la série dans laquelle on est présentement. Donc, j'en ai fait venir sept. Si ça vous intéresse de lire en parallèle, de lire en même temps, il m'en reste deux. Fait que vous avez l'opportunité là de pouvoir vous le procurer si vous ne l'avez pas. Sinon, ben s'il y en a d'autres qui en ont besoin, ben, on fera une autre commande à ce moment-là. C'est bien? Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? Depuis maintenant, c'est la troisième semaine. On a pris au moins deux semaines jusqu'à présent dans la série. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? Depuis le début, on a regardé des points qui sont très importants. On a parlé du changement. Vous vous souvenez? Et qu'est-ce qu'on a dit sur le changement? Il est mécanique ou organique? C'est quoi ça, un changement mécanique? Qu'est-ce que vous voulez dire, un changement mécanique? C'est quoi ça, un changement mécanique? C'est les choses qui ont leur source extérieure. Parce que moi, quand je parle de changement mécanique, ben, je pense à réparer mon auto. On répare la mécanique, c'est ça. Mais quand on parle de mécanique dans la vie d'un être humain, c'est quoi ça? Des choses qui viennent de l'extérieur. Des fois, quand on comprend son contraire, il y a le mécanique et l'organique. Ça nous aide à faire la part des choses. C'est quoi ça, organique? Un changement vivant, OK, qui provient de l'intérieur, d'une vie qui est déjà présente. Puis le meilleur exemple de ça, c'est les plantes, les arbres. À l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour que la plante, elle va grandir. Ça va venir de l'intérieur et on va voir des changements à l'extérieur par la suite. Le fruit, il va venir de l'intérieur. On n'arrive pas avec une brocheuse. Tiens, c'est le temps que tu ailles des pommes. J'en ai acheté sur Amazon, puis là, ben, on s'en vient brocher les pommes après l'arbre. Non, ça vient de l'intérieur. Son contraire, un changement mécanique, il faut que ça vienne de l'extérieur. Si je broche les pommes après mon arbre, c'est mécanique. Ça vient de l'extérieur. Bien important de le saisir parce que ça joue vraiment un rôle important dans nos vies. Et puis, c'est subtil. C'est très subtil dans nos vies, ce qui est mécanique et ce qui est organique. Parce que quand on regarde à l'apparence, les deux sont pareils. Quand il se passe de quoi dans nos vies, il n'y a pas personne autour de vous qui est en mesure de dire si ça c'est mécanique ou si ça c'est organique. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans vos cœurs. C'est là, c'est ça qui fait la différence. Ce qui va faire la différence entre le mécanique et l'organique, ce n'est pas l'apparence. L'œuvre qu'on va faire à l'extérieur va être bonne, que ce soit mécanique ou que ce soit organique. Les frères vont en être bénis. Les boîtes, les enfants vont les recevoir. Ils vont être heureux. Ce qui nous motive à faire des boîtes, c'est-tu mécanique ou c'est organique? Mais ça peut être mécanique aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a aucun moyen de savoir si ce que l'on fait, si ce que vous faites est mécanique ou organique. Fait que c'est très important que nous-mêmes, on en soit conscients, parce que les seuls juges qu'il peut y avoir, c'est nous-mêmes, envers nous-mêmes. Fait que c'est important de connaître la différence. Avec la religion, on obéit pour obtenir quelque chose de Dieu. Quand on dit la religion, on fait référence aux mécaniques, parce que la religion, tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ajouter des choses à votre vie. Elle va ajouter des bonnes habitudes, des habitudes pieuses. Fais plus ça, fais mieux ça encore, fais ci, fais ça. Si tu veux passer à l'autre étape, ben fais ça. Ça, c'est la religion. Rajoute des fardeaux sur les gens. Ça, c'est mécanique. Ça vient de l'extérieur vers l'intérieur. L'Évangile nous change. Donc, on obéit par amour pour le Seigneur. Avec la religion, nous changeons pour gagner, mériter l'approbation de Dieu. Avec l'Évangile, nous changeons parce que nous avons l'approbation de Dieu. L'Évangile nous dit, nous avons déjà l'approbation de Dieu. Dans les prochaines étapes de la série, on va regarder à 4 points principaux. Quand on les réunit ensemble, c'est un outil qu'on peut avoir entre nos mains pour nous rappeler des vérités fondamentales de l'Évangile, pour qu'on s'en soit saturé, pour pas qu'on oublie ces petits détails-là. Il y a 4 étapes, 4 choses. Et puis, on peut se servir de chacune de ces étapes-là comme une prière chaque matin. De se rappeler ces 4 éléments-là, de demander au Seigneur de nous faire grâce, et puis de faire en sorte qu'on n'oublie pas ces vérités-là. Et puis, pour introduire la première qu'on va regarder ce matin, on va regarder les autres à travers les semaines suivantes. Ceux qui ont lu le livre connaissent déjà les 4 étapes, mais on va se concentrer sur la première ce matin. Puis, avant de vous la dire, j'aimerais vous poser une question. Que pense Dieu de vous en ce moment, maintenant? Qu'est-ce que Dieu pense de vous? Selon vous, qu'est-ce que Dieu présentement, ce matin, pense de vous? Puis comment vous faites pour le savoir? Une intuition? Sur quelle base vous vous appuyez pour dire aujourd'hui, voici ce que Dieu pense de moi en ce moment même? La foi?
Sa présence et son approbation.
Sa présence, son approbation. Quand on marche d'après la parole, qu'est-ce qui se passe quand on ne marche pas selon la parole? Cette semaine, ça n'a pas bien été. Dieu nous aime pareil. Ouf! Est-ce que vous avez eu une bonne semaine? Est-ce que cette semaine, vous avez marché dans la parole? Est-ce que vous êtes fiers de vous cette semaine sur tout ce qu'on a accompli, sur tout ce que vous avez accompli? Pas tout le temps, mais même pareil, hein? Et ça nous introduit, on va y revenir un peu plus tard ce matin, mais ça nous introduit à la première étape, à la première chose, parce que quand on s'attarde, qu'est-ce que Dieu pense de moi? Bien souvent, c'est pas toujours basé sur ce que l'Évangile déclare. Et voici ce que l'Évangile déclare, c'est en Christ, rien de ce que je fais ne peut l'inciter à m'aimer davantage. Et rien de ce que j'ai fait ne peut l'inciter à m'aimer moins. Je vais le répéter pour ceux qui prennent des notes. En Christ, rien de ce que je fais ne peut l'inciter à m'aimer davantage. Et rien de ce que j'ai fait ne peut l'inciter à m'aimer moins. Et ça, c'est une vérité fondamentale dans l'Évangile. Elle est basée sur quoi? Comment est-ce que je peux prétendre que cette phrase-là, elle est vraie? Sur quelle base je peux dire ça? Son amour inconditionnel. La croix. L'Évangile nous présente la croix. Nous présente Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, quand il est venu sur la terre? Il s'est offert. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, devant Dieu, Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, il a marché sur la terre. Il nous a fait connaître son Père. Il a vécu ma vie. Jésus-Christ a vécu une vie parfaite. Jésus-Christ n'a jamais failli. Jamais. Même pas un petit peu. Il a vécu une vie parfaite. Il a réussi partout là où moi j'ai échoué. Pensez-y 2 minutes. C'est pas rien, là. C'est quelque chose. On essaye-tu fort de faire une bonne vie? On essaye-tu de marcher de façon parfaite dans la volonté de Dieu, dans tout ce qu'il nous demande, de toujours avoir la bonne attitude, de prendre les bonnes décisions, d'avoir les bons automatismes? Mais c'est pas évident, hein? Quand on regarde dans notre vie, me semble toutes les fois où j'ai manqué, ils reviennent assez rapidement. C'est ça qui nous enlève notre joie. Quand on se rappelle toutes ces choses-là, hein? Mais Jésus-Christ, lui, il a tout fait d'une façon parfaite. Il a tout fait d'une façon parfaite. Puis si on tourne dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 21. Un tout petit verset, mais qui en dit très, très long. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus-Christ qui a vécu une vie parfaite, il l'a vécu pour moi. Son compte de banque a été transféré sur le mien et le mien a été transféré sur lui. Il est devenu péché pour moi afin que je devienne justice, que je devienne juste devant Dieu. Parce que Jésus-Christ est juste. On appelle ça le grand échange. La justification, on a été justifié, nous avons été déclarés justes. On n'est pas été transformé, puis on est devenu juste. On est déclaré juste. Sur la base de ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est sur cette base-là qu'on peut affirmer cette phrase-là en Christ. Rien de ce que je fais ne peut l'inciter à m'aimer davantage. Et rien de ce que j'ai fait ne peut l'inciter à m'aimer moins. Est-ce que je peux ajouter sur ce que Jésus-Christ a fait? Est-ce que je peux enlever sur ce que Jésus-Christ a fait? Premièrement, c'est passé, c'est déjà fait, c'est déjà accompli. Puis deuxièmement, est-ce qu'il y a quelque chose que moi je peux faire de plus sur, par-dessus ce que Jésus a fait qui ferait en sorte que Dieu m'aimerait davantage? Quand on compare les œuvres que Jésus-Christ a faites et moi les œuvres que moi je peux faire, écoutez, il a marché sur les eaux. Il a multiplié le poisson, le pain. Il a changé l'eau en vin. Il a guéri des malades. Il a ressuscité des morts. Il avait tellement la foi, il s'appuyait tellement sur Dieu, parce que c'est pas lui qui le faisait. C'est le Père qui le faisait à travers nous. Jésus-Christ était en tout point un homme comme vous et moi. C'est Dieu qui le faisait à travers lui. Il avait suffisamment la foi. Il dépendait suffisamment de Dieu en tant qu'être humain pour que Dieu fasse tout ça à travers lui. Puis moi, de l'autre bord, je suis fier parce que j'ai lu ma Bible tous les jours. Puis je pense que Dieu m'aime plus parce que j'ai lu ma Bible tous les jours cette semaine. Il est temps qu'on s'ouvre les yeux. Puis qu'on voit les choses comme elles sont réellement. Que nos cœurs soient saisis de cette vérité-là. Il n'y a rien de ce que je peux faire qui peut ajouter sur tout ce que Jésus-Christ a fait qui va faire en sorte que Dieu va m'aimer davantage. J'ai des croûtes à manger si je veux égaler les œuvres de Jésus-Christ. Et il est allé jusqu'à la mort pour nous. Il est allé jusqu'à la mort. Ça signifie que Dieu ne pourra jamais m'aimer plus qu'il ne m'aime déjà. Puisque Dieu ne pourrait ne pas aimer ou accepter Christ davantage. Et Dieu me voit à travers Christ. Dieu, il ne peut pas donner plus d'amour quand il regarde Jésus-Christ, parce qu'il a déjà tout déversé son amour sur lui. C'est déjà fait. Notre automatisme est de s'évaluer en fonction de combien, de comment bien a été notre semaine. Ça, c'est notre automatisme. Comment ça a été cette semaine? Quand on arrive à l'église, des fois, on prend plus conscience. Moi, je m'arrive. Je me présente devant Dieu un matin avec mes frères, mes sœurs. On va prendre le repas du Seigneur tantôt. Hey, parmi tous les dimanches matins, là, il n'y en a pas un de plus propice à ce qu'on s'évalue, hein, puis qu'on regarde est-ce que j'ai passé une bonne semaine, est-ce que j'ai passé un bon mois, comment ça va, Seigneur, pour toi, avec entre moi et toi. J'ai-tu bien fait ça cette semaine? C'est quoi l'émotion qui vous vient en tête, qui vous vient dans votre cœur? Bien souvent, notre tête le sait, là, la vérité, là. Qu'on a déclaré ce matin. Seigneur, tu m'acceptes sur la base de Jésus-Christ. Mais ton cœur, ton émotion, c'est quoi qui te révèle? Souvent, les émotions, c'est un thermomètre qui nous indique, c'est des indicateurs sur les vérités qui sont profondément gravées dans nos cœurs. Est-ce que cette vérité, elle est là? On va prendre le repas du Seigneur tantôt. Est-ce qu'on va le prendre dans la joie parce que ça l'a bien été puis je suis fier de tout ce que j'ai fait pour lui ou on va le prendre dans la honte parce que je suis pas fier de moi parce que j'aurais aimé faire plus, j'aurais aimé faire mieux. Parce que quand je fais plus puis quand je fais mieux, je sens que Dieu m'aime plus. Je sens que je suis plus digne de me présenter devant lui. C'est tout ça que nos émotions nous révèlent. Lorsque nous vivons ce genre d'émotions, nous mettons en évidence bien souvent que nous avons oublié profondément cette vérité de l'Évangile. Imaginez en train de prier. Je vais prendre la citation dans le livre. Imaginez si vous pourriez dire ceci à Dieu. Dieu, voici pourquoi je pense que tu devrais écouter ma prière. Cette semaine, j'ai achevé un jeûne de 40 jours. Et ce faisant, j'ai rencontré Satan incarné. Je l'ai intimidé et j'ai résisté à chacune de ses tentations. Puis j'ai souffert injustement aux mains de pécheurs, mais sans la moindre plainte ni colère. La seule fois où j'ai ouvert la bouche, c'était pour leur pardonner ce qu'ils me faisaient. Aussi, j'ai marché sur l'eau, guéri un aveugle sur le champ et nourri 5000 hommes affamés avec une miche de pain. Est-ce que vous pourriez faire une prière comme ça? Sur la base de l'Évangile? Oui. D'après l'Évangile, c'est exactement ce que nous pouvons faire et devriez dire. Parce que tout ce que Jésus-Christ a accompli, il l'a fait à ma place. Devant Dieu, là, Dieu regarde toutes ces choses-là, là, et il les voit. Il les voit quand il me regarde. Parce que tout ce que Jésus-Christ a fait a été mis sur mon compte à moi. La mort de Jésus a payé pour chaque gramme de vos péchés. Sa vie parfaite vous a été imputée. En considérant cela, pouvez-vous vraiment pouvoir obtenir plus d'approbation de la part de Dieu en lisant votre Bible chaque matin? L'obéissance de Christ est si spectaculaire que nous ne pouvons pas y ajouter. Sa mort si finale qu'on ne peut rien y ôter. Ça saisit, hein? C'est pour ça que en Hébreux chapitre 4, verset 16, ça dit qu'on ne devrait pas entrer dans la présence de Dieu de façon timide, avec appréhension, avec honte, mais plutôt avec assurance. L'assurance qui vient de savoir que Dieu nous considère selon ce que Christ a accompli. C'est sur cette base-là qu'on devrait se présenter devant Dieu constamment et sur aucune autre. Notre nature humaine, notre automatisme nous amène à pas voir les choses de cette façon-là. Ça nous amène à se centrer sur nous, ce que nous on fait, nous évaluer nous en fonction de ce que Jésus-Christ a fait. Ce que Jésus-Christ a fait devient pas ce que moi j'ai fait, mais devient un standard de comparaison. Quand on y va avec notre automatisme, je regarde tout ce que Jésus a fait. OK, moi, je vais faire comme lui. Je veux faire comme lui. Puis en plus, ça nous dit qu'on est supposé devenir de plus en plus à l'image de Christ. Fait que je suis dans la bonne direction en pensant comme ça. Ça devient notre focus. Ça devient un thermomètre sur lequel on se base, savoir si je peux me présenter dans la joie, dans la fierté devant Dieu ou non. On a besoin de se rappeler l'Évangile. Et quand on se rappelle l'Évangile, quand on se libère de ce poids-là, de ce fardeau-là, de devoir faire, de devoir accomplir, de se comparer, de s'évaluer constamment, quand on est libéré de ce poids-là, cette vérité-là que tout ce que Jésus-Christ a accompli m'a été imputé, m'a été transféré, m'a été donné. Quand nos cœurs comprennent cette vérité-là, qu'est-ce qui se produit? Une pression énorme vient de tomber. Une pression énorme vient de tomber. Nos cœurs peuvent goûter à la paix, au repos. Parce que travailler 24 heures sur 24 pendant une semaine, vous allez être poché jusqu'aux genoux. Hein? Mais c'est ce que nos cœurs subissent constamment quand on est constamment dans le faire pour le Seigneur. Quand on recherche constamment à tout le temps faire des œuvres, à tout le temps faire mieux. Quand on est constamment sous pression, le stress. Qu'on s'observe tout le temps, qu'on est tout le temps dans la tête, fais pour le mieux, fais pour le mieux, fais pour le mieux, pour la gloire de Dieu. Sois une bonne chrétienne, sois un bon chrétien, pour la gloire de Jésus. Constamment, 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 constamment. Même dans nos rêves, on ne trouvera pas du repos. Même dans votre sommeil, votre corps va être crispé. Quand nos épaules là, sont dures comme le roc, là, on est constamment sous le stress et ça nous gruge de l'énergie, même quand on dort. C'est constant, c'est tout le temps, c'est partout. Cette stress-là, cette tension-là que ça met dans nos cœurs a des impacts. Et l'être humain est fatigué de toujours être sous cette pression-là. Et quand on comprend l'Évangile, cette vérité-là de l'Évangile, ça nous amène dans le repos. Imaginez-vous, là, présentement, là, du stress, on en a tout dans votre vie. C'est quoi la plus grande source de votre stress présentement pendant qu'on se parle? Vous pensez à votre semaine. C'est quoi la plus grande source de votre stress? La cause, là, ce matin, là, de tout votre stress de la semaine, des mois à venir, des années passées, c'est quoi? Puis imaginez-vous, pouf, ce matin, ce problème-là, cette source de stress-là, elle est réglée. Elle vous est enlevée. Enfin. Quand il y a un problème là qui nous gruge là, depuis des semaines, puis quand il est enfin réglé, enfin c'est derrière moi. Le soulagement dans lequel on entre est incroyable. Le jour où ce que nos cœurs découvrent et saisis de cette vérité-là, c'est la même chose. Le repos est incroyable. Et ceci crée un cœur qui aime Dieu, qui désire faire ce que Dieu désire. Dieu devient la source de ce repos-là. Et nos cœurs regardent ça, puis ils sont tellement reconnaissants. Ils sont tellement émerveillés d'avoir enfin trouvé le repos, qu'ils regardent à la source de ce repos-là avec un cœur reconnaissant incroyable. Et ça crée un désir pour les choses de Dieu. Ça crée le goût de le suivre, de passer du temps avec lui, de ne pas faire encore pour lui, de passer du temps avec lui. Une chose qui me frappe toujours avec les enfants, c'est « Hey, papa, on aimerait ça. » On va passer du temps avec toi. OK, mon automatisme en tant qu'adulte, c'est on va faire quelque chose ensemble. Je vais montrer à mes enfants que je les aime parce qu'on va faire telle chose ensemble. Ah oui, vous pouvez pas dire je vous aime pas, on est allé au zoo la semaine passée. Regarde, je fais tout ça pour vous prouver mon amour. Mais mon enfant, là, il l'a déjà oublié qu'il est allé au zoo la semaine passée. Lui, c'est pas le fait d'être allé au zoo qui va faire en sorte qu'il va croire davantage ou moins dans l'amour que je lui donne. C'est pas ça qu'il veut. Il veut du temps avec son parent. Il veut plus de son parent. Il veut pas plus d'activité. Il veut de son parent. L'enfant qui se sent aimé de son père, de sa mère, va vouloir passer plus de temps avec eux. Et non faire plus d'activités avec eux. Ça, c'est les adultes, aujourd'hui. Ah, on va s'occuper un peu des enfants, on va aller au parc. Alors, écoute, je vous aime, je vous ai amené au parc. Ouais, mais papa, maman, pendant qu'on a joué au parc, tu étais assis sur le banc puis tu textais. Ouais, mais on est quand même allé au parc. Vous pouvez pas dire que je vous aime pas. L'enfant, t'as regardé, t'es bien tordu, toi. T'as pas compris? C'est pas ça que je veux. T'es supposé jouer au requin, puis c'est toi le requin. C'est ça que t'es supposé le faire. À quatre pattes dans le carré de sable, en train de jouer. Là, ton enfant, il va goûter à toi. C'est toi qui veux.
Tu vas y goûter
aussi, oui. Mais t'as du fun aussi. Mais l'adulte et l'enfant, complètement différent. À un moment donné, nos enfants, ce désir-là dans leur cœur, ils l'abandonnent parce qu'ils l'ont plus. Le parent est tellement pris dans son paradigme que si jamais l'enfant il a satisfaction, il va chercher la satisfaction ailleurs. Puis en vieillissant, on perd ce désir-là. On perd cet aspect-là. Pour nous, recevoir de l'amour devient faire des activités, faire des choses. Et ça ferme le cœur des enfants. Et ce n'est pas ce que Dieu veut faire avec nos cœurs. Il veut qu'on ait des cœurs d'enfants. Il veut qu'on leur ressemble. Passer du temps avec Dieu, que ça soit notre priorité. Oui, de ça découle plein d'œuvres pour le Seigneur. Mais la priorité, est-ce que c'est les œuvres? L'enfant, il s'en fout de l'activité. Il est content de faire une activité, mais il est content de l'activité parce que tu es là. Puis tu y participes, puis tu y mets tout ton cœur. Puis il y a un échange, il y a une intimité, il y a une relation. Là, le cœur de l'enfant est comblé. C'est la même chose avec nous autres. Quand on ouvre nos yeux sur ces vérités, nos cœurs sont reconnaissants et ont un désir d'être avec Dieu. Ils ont un désir de Dieu. Et c'est ça que l'Évangile produit. L'Évangile dit que vous êtes acceptés, premièrement, inconditionnellement. Et ceci crée en nous l'obéissance. Et celui qui veut que l'on croie le contraire, c'est qui? C'est Satan. C'est l'ennemi. Satan, lui, il fait complètement l'inverse. Il prend nos actions, puis après ça, il fait en sorte qu'on s'évalue en fonction de nos actions. C'est ça qu'il veut qu'on fasse. Mais on n'a jamais fait assez. Regarde ce que tu as fait. Ah! Puis regarde là, après ça, tu dis que tu es un enfant de Dieu? Ben voyons donc, ça marche pas fort ton affaire. Regardez les tentations que Satan a fait envers Jésus. Quand on regarde dans Matthieu chapitre 4, c'est vraiment intéressant. Matthieu chapitre 4, tentation de Jésus-Christ. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et dit, regardez bien ce qu'il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, et là il continue. » Mais Jésus savait qu'il était le fils de Dieu. Qu'est-ce qui venait juste de se passer avant qu'il rentre dans le désert? Jésus s'est fait baptiser. Et qu'est-ce qui s'est produit au baptême? Une déclaration de Dieu sur l'identité de Jésus-Christ. Il est mon fils. Et en lui, j'ai mis toute mon affection. Sais-tu que Satan, il ne savait pas que c'était le fils de Dieu, puis il avait besoin de se le faire prouver? Si tu es le fils de Dieu, ben prouve-moi-le puis fais ça. C'est tout ça que Satan est en train de faire. Satan, il n'avait pas de problème avec sa christologie. Il savait très, très bien que c'était Jésus-Christ, qu'il était le fils de Dieu. Mais il est en train de lui dire, « Hey, t'es le fils de Dieu. Comment ça t'es ici puis que t'as faim? C'est pas normal. Si t'es réellement le fils de Dieu, tu ne devrais pas te retrouver dans une situation comme ça. » Penses-tu? Satan veut amener Jésus-Christ à valider son identité sur une autre source que celle de la déclaration de son Père sur lui. Il veut l'amener à douter de la déclaration que Dieu a faite de son identité. Il veut l'amener à trouver la source de son identité ailleurs que dans la déclaration du Père. Si tu es le Fils de Dieu, tu ne devrais pas faire ça. Tu devrais être capable de transformer ça en pain puis manger là. Parce que ce n'est pas normal pour le Fils de Dieu, si tu es réellement le Fils de Dieu, de se retrouver dans cette situation-là. Il fait ça 2 fois sur 3. Satan, pour tenter Jésus, il aurait pu faire apparaître une revue Playboy, puis Jésus, ouh, je vais te détourner du droit chemin. Ou que les pierres, ils se lèvent tout seuls, puis qu'ils se promènent, puis que Jésus se mette à léviter. Souvent, quand on pense aux attaques de l'ennemi, on pense souvent à des affaires de même. Quand on pense aux tentations, on pense aux choses de ce monde, aux choses charnelles, la sexualité, la drogue, peu importe. C'est souvent les images qu'on a. Mais la première stratégie de Satan, celle qu'il a même utilisée avec Jésus, il vient emmener les personnes à essayer de valider leur identité dans une autre source que les déclarations du Père à leur sujet. Parce qu'une fois que ça c'est fait, la porte est ouverte à toutes les autres tentations. Parce que ça l'amène notre cœur dans un état où est-ce qu'il a faim. Il n'est plus saturé de l'amour de Christ parce qu'il s'en détourne. Il essaye de chercher la source de sa sécurité, la source de son amour en d'autres choses. Parce que Satan a réussi à faire en sorte que nos yeux se sont détournés des déclarations du Père à notre sujet. Souvenez, Adam et Ève, on a regardé un peu ça. La première réaction au péché, c'est qu'ils ont pris conscience de quoi? Qu'ils étaient nus. Mais pourquoi avant, ils étaient nus aussi? C'est quoi là? C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'après avoir pris de l'arbre défendu, ils ont finalement réalisé qu'ils étaient nus? Avant qu'ils désobéissent, ils étaient revêtus de l'acceptation inconditionnelle de Dieu, de l'amour inconditionnel de Dieu. Donc, ils n'étaient pas en train de s'évaluer, ils n'étaient pas en train de chercher s'ils étaient suffisants ou pas. C'était leur identité. Ils étaient pleinement comblés en Jésus-Christ. Mais quand ils ont pris de l'arbre défendu, ils ont enlevé ce manteau-là. Et puis là, ils se sont vus tout nus. La crainte, la honte. « Je suis correct? Je suis normal? Elle n'a pas ça, elle? Hein? Je suis normal? » Plein de pensées qui nous viennent. C'est la même chose dans nos cœurs. Quand on se détourne, quand on s'enlève, quand on enlève le manteau de l'acceptation inconditionnelle de Dieu, de son amour inconditionnel, quand nos yeux se détournent de cette déclaration-là, nos cœurs sont laissés à nous-mêmes, à eux-mêmes. Et là, ils commencent à avoir faim et cherchent leur validation dans toutes sortes de choses. Et là, la porte est grande ouverte à toutes les idoles possibles. Parce que nos cœurs le désirent. Nos cœurs le désirent. Fait que le but de Satan, c'est de nous emmener dans cet état d'être-là. Où est-ce que nos yeux se détournent de la déclaration de justice que Christ, que Dieu a fait sur nous. C'est ce qu'il veut faire. Quand on regarde la femme adultère dans Jean 8, chapitre 11, ça dit ceci, « Moi non plus, je ne te condamne pas. « Va et désormais ne pêche plus. » L'ordre que Jésus utilise, d'abord la promesse, ensuite le commandement. Puis nous, on a tendance à inverser l'ordre, et Satan veut inverser l'ordre. Jésus dit que l'obéissance va venir avec le sentiment de l'acceptation. Et Satan, il n'en veut pas de ça, lui. Il nous accuse, puis ensuite notre identité. Jésus commence avec notre identité, puis ensuite, regarde tes œuvres. On va les réparer. On va les changer. On va les transformer. Mais il n'y a rien de ça qui va changer. Qui tu es? Qui tu es? Et ça fait toute la différence. Satan commence avec ce que vous faites et ensuite détruit qui vous êtes. Jésus commence avec ce qu'il a fait de vous, et ensuite vous aide à reconstruire ce que vous avez fait. Autant Satan que Jésus, que le Saint-Esprit désire que l'on prenne conscience de nos péchés davantage. C'est le désir de Dieu qu'on prenne conscience de notre péché. C'est aussi le désir de Satan. Mais les deux font quelque chose de complètement différent avec. Complètement différent. Jésus nous restaure. Jésus commence avec la déclaration d'identité. Puis il dit, maintenant regarde, on va regarder à tes œuvres. Agis en fonction de qui tu es. Mais sois pleinement conscient de qui tu es et à quel point je t'aime. Parce que ça va changer notre attitude, notre disposition de cœur quand Dieu va commencer à travailler dans nos vies pour nous transformer, pour transformer nos œuvres, nos actions. Tandis que Satan dit, regarde, regarde. Après ça, tu dis que plusieurs d'entre nous, on ne peut pas supporter de faire face à nos échecs du passé. On s'en veut. Peu importe c'est quoi. Peut-être qu'on se sent défini par un divorce, par une trahison qu'on a eue ou qu'on a fait à un autre, ou peu importe quelle action vous amène dans la honte concernant votre passé. Bien souvent, ces événements-là, ces choses-là vont définir notre vie, définir qui nous êtes, qui nous sommes. Et on n'est pas capable de s'en sortir. Mais la justice de Christ nous a été donnée. Dieu ne peut pas vous aimer plus qu'il ne le fait maintenant. Parce que son amour n'est pas défini en fonction de votre passé, mais en fonction de ce que Jésus-Christ a accompli. Et il a vécu une vie parfaite. Peut-être qu'on doute constamment de notre salut quand on regarde quand on considère nos luttes, quand on considère nos péchés qui reviennent constamment dans nos vies, puis on se dit, voyons donc, si j'avais réellement compris l'Évangile, je ne retomberais pas tout le temps là-dedans. Ça nous amène à douter. Je deviens découragé par ce qui semble être un manque de fruits dans ma vie. Quand on regarde nos fruits, on se dit, voyons donc, j'ai-tu vraiment compris? Mais vous savez, les personnes qui portent le plus de fruits dans leur vie sont ceux qui savent que l'amour de Dieu pour eux ne dépend pas des fruits qu'ils portent. Que vous ayez porté 50 fruits cette semaine, que vous en ayez porté 2, que vous en ayez porté 5000, l'amour de Dieu n'est pas défini en fonction des fruits que vous avez portés. Et c'est quand on comprend ça qu'on va finir un jour par en porter des milliers. Et des fruits qui vont vraiment glorifier le Seigneur, parce qu'ils vont vraiment à la source. Ils vont vraiment à la source être du fruit d'un cœur sincère devant lui. Et non le fruit d'un cœur qui essaie de manipuler Dieu pour obtenir plus d'approbation de sa faveur, de lui. Plus de sa faveur, plus de son amour, plus de son approbation. On ne manipule pas Dieu comme ça. C'est notre interaction avec l'amour gratuit de Dieu qui produit des fruits dans nos vies. L'intimité avec Dieu. L'intimité. On a besoin de constamment de se rappeler cette vérité-là, mes frères, mes sœurs, tous les jours de notre vie. Tous les jours, on en a du besoin. En Christ, rien de ce que je fais ne peut l'inciter à m'aimer davantage. Et rien de ce que j'ai fait ne peut l'inciter à m'aimer moins. Prenons le temps cette semaine de nous répéter cette vérité-là chaque jour, pour qu'on soit saturé de l'Évangile, que nos cœurs soient saisis de cet amour-là que Dieu a pour nous, que cet amour-là en nous nous transforme, nous change, crée en nous un désir pour Dieu, simplement. J'aimerais qu'on prenne le repas du Seigneur ce matin avec l'ampleur de l'œuvre de Jésus-Christ dans nos cœurs, dans nos têtes. Qu'on se souvienne ensemble. Qu'on se souvienne ensemble de ce que Jésus-Christ a fait. J'aimerais inviter les préposés à venir en avant pour distribuer les éléments. On va aller en silence. Visitez vos cœurs, puis évaluez-vous sur la façon dont vous vous évaluez. C'est-tu sur la base de l'Évangile ou c'est sur la base de ce que vous avez accompli? Est-ce que vos cœurs sont remplis, saturés de cette vérité-là ou sont encore dans le jeu de l'ennemi pour nous garder prisonniers? Prenons un temps en silence devant Dieu. Seigneur Jésus, on est devant toi ce matin. Et Père éternel, viens sonder nos cœurs. Mets en lumière, Père éternel, ce que nos cœurs croient vraiment. Montre-moi, Père éternel, si mon cœur a encore besoin de se faire rappeler ton évangile. De se faire rappeler cette vérité, Père éternel, que rien de ce que je peux faire, rien, ne peut faire en sorte que tu vas m'aimer davantage que ce que tu m'aimes maintenant. Rien de ce que j'ai fait non plus va faire en sorte que tu vas m'aimer moins de ce que tu m'aimes présentement et pour toute l'éternité. Il est où mon cœur, Père éternel? À la lumière de cette vérité-là, Père. Veux-tu me le montrer, Seigneur? Est-ce que j'accepte cet amour, Père éternel, dans ma vie? Est-ce que je la laisse me transformer? Est-ce que je la laisse m'envahir ou je lutte constamment contre elle? Dans ta grâce, Seigneur Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin, Seigneur Dieu, que tu viennes nous arrêter dans notre folie, Père éternel. Notre folie humaine, Seigneur, qui est de toujours courir pour toi, Seigneur. Pour qu'on soit en mesure d'accepter ce que tu nous donnes gratuitement. On ne les aime pas, les cadeaux gratuits, Père. Et on veut faire des choses pour le mériter. Seigneur, arrête-nous dans notre folie ce matin. Et viens saisir nos cœurs de cette vérité pour que l'on trouve un repos éternel, un repos parfait. Seigneur, tu m'aimes d'une façon inconditionnelle. Tu nous acceptes, Seigneur, à 100%. À cause de ce que Jésus a fait pour nous. Merci, ô Éternel. Merci. On veut prendre le temps ce matin de se rappeler cette vérité, Père. De considérer Jésus-Christ à la croix. Son sang a coulé pour nous. Il a souffert, Père. Parce que sur lui est tombée toute ta colère. Il a tout pris ça sur lui, à notre place. Merci, ô Éternel. Donne-nous, Seigneur, d'accepter cet amour d'une façon gratuite. Que cette vérité, Seigneur, nous envahisse. On a besoin de toi. Ouvre les yeux de nos cœurs, Père éternel, que l'on comprenne la hauteur, la largeur, la profondeur, Seigneur, de ton amour pour chacun de nous. Au nom de ton Fils qu'on te prie. Amen. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Rappelez-vous cette vérité, rappelez-vous cette phrase-là, qu'on se la répète chaque jour, chaque matin que le Seigneur nous donne pour qu'on en soit rempli, qu'on en soit saturé.